André Lumbushima et au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre. Les partenaires techniques et financiers de la RDC ont souscrit, chacun selon ses moyens, à apporter les financements nécessaires à l'exécution d'un plan national d'investissement agricole de la RDC. Il s'agit de la Banque mondiale, BAD, UE, l'USAID, FAO, FIDA et autres. Avec un montant de plus d'1 milliard, le gouvernement congolais devra à nouveau relancer le secteur agricole. Toutefois, plusieurs tentatives de relance de ce secteur par des gouvernements successifs en RDC sont restées sans succès. Selon vous, que faut-il faire pour réussir finalement cette relance au travers de ces financements? Composez les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à notre adresse pa@radiocapi.net et vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Nous disons merci à Titi Mputu, Nadine Fula et Willem Lungamba pour la réalisation de cette émission. J.R. Lungembo vous la présente et coordonne sous la supervision de Nicole Ngaka. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons en ligne notre invité, l'ingénieur John Biza Boya, qui est le coordonnateur de la Confédération Paysanne du Congo, COPACO en sigle. Ingénieur John, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Voilà, par rapport aux expériences passées, d'aucuns aujourd'hui craignent que ces programmes ne puissent pas marcher. Alors, selon vous, quel peut être l'avantage qu'on peut tirer de ce programme national d'investissement agricole de la RDC?
Ok. D'abord, merci. On va retracer un peu l'historique. Comment on est arrivé au plan national d'investissement agricole PENIA. En fait, en 2003, le chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine se sont réunis à Maputo et ils ont décidé, en fait, d'accorder 10% au budget national alloué au secteur agricole, de manière à ce que chaque État devrait prendre en compte cette augmentation de 10% dans leur budget national pour que le secteur agricole redevienne en fait le fer de lance pour le développement social et économique dans chaque État africain. C'était ça en fait la première occasion qui a fait que l'on arrive aujourd'hui, 10 ans après, sur l'ensemble du continent africain, dans différents États, au déclenchement de plans nationaux d'investissement agricole. Et pour un pays en réduction, ça s'appelle Plan national d'investissement agricole, qui est une priorité pour la relance du secteur agricole. Alors, l'avantage, c'est tout simplement pour dire que le 3/4 de la population dans chaque pays, notamment le nôtre, est constitué de ce que nous pouvons appeler de petits producteurs agricoles. Et qu'avec le PENIA, justement, c'est cette catégorie socio-professionnel aura donc comme activité principale d'augmenter cette production et comme conséquence la réduction de la pauvreté et de la faim.
Voilà, alors c'est vrai qu'on va tirer quand même certains avantages par rapport à ce programme. Nous le savons tous que l'agriculture en RDC occupe 70% de notre population active et peut contribuer à l'économie nationale pour 50% du produit intérieur brut. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on assiste à une faible production dans les secteurs agricoles. Selon vous, quels peuvent être des mécanismes efficaces à initier pour finalement réussir la relance du secteur agricole, parce qu'on sait que plusieurs tentatives n'ont pas abouti au résultat?
Oui. En fait, de manière assez générale, le mécanisme, d'abord, il faut retenir que ce plan national d'investissement agricole dans notre pays est articulé en termes de programmes. Il y a des programmes, il y a des sous-programmes et de composantes. Et si nous devons aller en termes de chiffres, vous verrez qu'il y a à peu près 66 composantes avec 8 programmes et plus d'une trentaine de sous-programmes. Alors, chaque type de production, au niveau organisationnel, les gens devraient être regroupés en filières. Prenons avec les cultures de rente, le cacao, le café, le veilla, le coton. On aurait, en fait, des filières assez distinctes pour que ceux qui se lancent dans cette production-là puissent ramener un taux élevé de la production et le pays pourrait être totalement remis sur le marché international et même sous-régional au niveau africain. Et de l'autre côté, sur le plan de la production végétale ou animale, le taux de production augmenterait de manière à ce que, qu'il s'agisse de la consommation intérieure ou pour les exportations, notre pays devrait refaire un retour spectaculaire d'ici l'an 2020, qui est en fait la période consacrée au plan national d'investissement agricole.
Voilà,
voilà
que...
un peu. Oui. Alors, l'autre mécanisme, si on peut parler de mécanisme, c'est par rapport aux spécificités de chaque province. Vous savez, notre pays, à travers les 11 provinces, chaque province a ses spécificités, dues évidemment aux potentialités que nous avons, par exemple le climat et l'écologie. Toutes les provinces jetées dans la production agricole, ça sera vraiment un boom et à ce moment-là, on oublierait facilement l'aspect minéraire parce que le secteur agricole prendrait le dessus, comme dans d'autres pays, pour que les industries qui utilisent les matières premières qui proviennent de l'agriculture vont aussi, à ce moment-là, être relancées. C'est le cas de l'huile de palme qui, en fait, à travers les industries des huileries et de la savonnerie vont renaître dans le pays parce qu'elles ont existé à une certaine époque et elles ont connu ce que nous pouvons appeler la déchéance actuellement, tandis qu'avec la reprise de l'agriculture, ça serait vraiment un retour de ces industries-là qui sont, en fait, pour certaines provinces, sont soit abandonnées ou complètement ont disparu.
Oui, oui, oui. Ingénieur John, à quoi vos propos, ce plan national d'investissement agricole s'étend jusqu'en 2020, mais on sait tout de même que l'agriculture, l'élevage et la pêche sont des secteurs stratégiques pouvant permettre à la République démocratique du Congo d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et en particulier les objectifs de la réduction de la pauvreté et l'éradication de la faim. Mais 2020 avec 2015, là, ça porte à croire que nous ne serons pas au rendez-vous des OMD.
Oui, mais ce sont des activités, en fait, qui font de la déclinaison. Alors, que ce soit dans le cadre des OMD, que ce soit dans le cadre de DCRP, que ce soit même dans le cadre du PENIA, les objectifs sont le même. Tenez par exemple en ce qui concerne l'objectif global du PENIA. C'est pour stimuler une croissance annuelle soutenue du secteur agricole de près de 6%, indispensable pour réduire la pauvreté, pour assurer en même temps la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations congolaise et pour générer de manière assez durable des emplois et des revenus. Donc, ça c'est un objectif assez important dans le cadre du plan national d'investissement agricole qui touche en même temps les OMD et le DCRP2. Donc, que ce soit pour un plan qui a été édicté avant 2013, nous parlons des OMD, que ce soit pour le DCRP, en fait, vous voyez que dans la projection, l'objectif demeure le même. Donc, on a besoin à ce que la pauvreté soit réduite et que la population puisse accéder à une sécurité alimentaire durable. Et pour cela, il faut qu'il y ait des mécanismes, des politiques sectorielles assez importantes, assez soutenues sur le plan financier et économique pour que la population puisse en être bénéficiaire.
Voilà, nous avons suivi tous l'actualité et lors de business meeting, le DG Kayembe Wakayembe de la Banque Centrale du Congo avait fait remarquer que aujourd'hui, si la relance du secteur agricole pose énormément de problèmes, c'est lié au déficit de financement dont souffre le secteur agricole en RDC. Est-ce que vous partagez cet avis?
Oui, cela est tout à fait vrai parce que le secteur agricole, c'est un secteur qui n'a pas assez de garanties. Donc, quand un investisseur doit venir dans ce secteur-là, en tout cas, il est vraiment au départ trop hésitant. parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que la Terre va réserver comme surprise. Dans l'hypothèse où la production, après avoir fait son champ de grande étendue, que ce soit 10 000 hectares, 100 000 hectares, on n'est pas certain que la récolte va répondre à ce qui a été investi. C'est ce qui fait que le bailleur de fonds, que ce soit ceux qui sont dans le secteur public ou privé, ils sont totalement hésitants pour investir dans ce secteur-là. D'où, pour un pays comme le nôtre, comme dans d'autres pays, l'État doit se prendre en charge. C'est comme ça qu'à l'époque, vous savez, dans notre pays, il y avait la Banque du Crédit Agricole. Et aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle loi agricole, il y a un fonds qui est prévu, qui en fait jouerait le rôle d'une banque qui accorderait des crédits aux producteurs agricoles ou aux exploitants agricoles. Donc, c'est tout à fait réel ce que le directeur Kayembe Wakayembe a dit, tout à fait réel, parce que c'est un secteur à haut risque. Un secteur à haut risque et que on ne peut pas s'y lancer sans pour autant avoir de garanties certaines. L'État peut, par exemple, créer des mécanismes de subsidiarité en accordant des subsides aux exploitants agricoles. En ce moment-là, ceux-là sont garantis que l'argent que nous allons investir, l'État en est aussi un des acteurs et qu'il pourra participer dans des cas, par exemple, où la plantation ou le grand étendue d'exploitation agricole subirait soit des incendies, soit des ravages dus à des maladies qu'on ne pouvait pas maîtriser et que ça serait une perte. En ce moment-là, on serait totalement sécurisé par l'apport de l'État.
Voilà, ingénieur John Biza, nous allons...
C'est plutôt Rico, hein?
Pardon, ingénieur John...
Crico.
Oui. Voilà. Merci beaucoup, ingénieur Crico. On va revenir à vous, 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. On va faire le tour de la République démocratique du Congo pour recueillir vos points de vue par rapport à cette thématique et par rapport au débat du jour. Maître Machaka, vous êtes à Lubumbashi et Adria Kananga. Maître Machaka, vous avez une minute pour votre intervention. Bonjour.
Bonjour, monsieur JR. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà, rapidement, selon vous, que faut-il faire pour réussir finalement cette relance du secteur agricole au travers de ces financements?
Merci beaucoup, monsieur JR. Moi, ce que je vais amener comme contribution. Vous savez, aujourd'hui, ce secteur, c'est un secteur qui est abandonné à son triste sort. Comme conséquence, l'exode rural, puisque beaucoup de villageois, des cultivateurs quittent les campagnes pour se réfugier en ville. Ce que moi, je peux proposer, il faut d'abord commencer par relancer d'abord les sociétés agricoles. Puisqu'auparavant, on avait les cotonnières, on avait les riseries, on avait les minoteries. Toutes ces sociétés-là sont en faillite aujourd'hui. Alors, pour permettre à ce que ce secteur-là se relance, monsieur Gire, il faut qu'on commence d'abord par relancer les 10 sociétés, puisque lorsque les 10 sociétés seront en activité ou bien en mouvement, ils auront besoin des matières premières. Et pour avoir ces matières premières-là, ils doivent financer des agriculteurs et consorts, de sorte que ces dernières-là aient le courage, puisqu'ils savent que dès qu'ils produisent beaucoup, il y a une société quelconque qui va acheter leurs matières et ils auront de l'argent.
Voilà, merci beaucoup.
Ils ne pouvaient pas commencer, il faut d'abord commencer à relancer d'abord
les activités de ces sociétés. Merci beaucoup, Maître Machaka, d'avoir appelé de Lubumbashi. Nous prenons Adrien qui est à Kananga. Bonjour, Adrien.
Oui, bonjour, JR.
Vous avez la parole, Maître Adrien.
Oui, moi je pense que premièrement, il faut que le gouvernement puisse prioriser d'abord l'agriculture, tout en priorisant l'agriculture et puis la rendre obligatoire pour tout le monde. Il ne faut pas que le gouvernement pense, comme nous le voyons, s'investir, se pencher beaucoup dans des mines, parce que depuis l'indépendance de notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes penchés dans des mines, mais les mines ne nous ont rien apporté, puis nous sommes vers la fin de l'exploitation de toutes ces mines-là. Et puis, deuxièmement, hier, il faut réhabiliter les routes de dessertes agricoles, parce que on peut prioriser, on peut rendre ça obligatoire, mais comment écouler tous ces produits-là? Nous n'avons plus de routes, les routes sont vraiment inexistantes, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a même certains autochtones qui se donnent par rapport à ces produits-là, mais ils trouvent des difficultés pour écouler leurs produits champêtres. Et puis, troisièmement, hier, je pense que le gouvernement congolais pouvait maintenant assister à toutes ces bonnes volontés-là, toutes ces bonnes volontés en leur venant en aide avec les produits comme les boutires, les maïs, ainsi de suite, tous les biens-là, pour permettre ces gens-là à croître, parce que lorsque nous prenons la qualité de tous les biens produits au jour d'aujourd'hui, ce sont des qualités qui datent de très longtemps, et pourtant, il y a les histoires qui évoluent tant bien que mal. Et
puis, alors, pour finir, oui, allez-y rapidement.
Qu'on se pose des questions, pourquoi toutes ces tentatives-là échouaient, pour voir comment est-ce qu'il faut améliorer, parce que on a toujours dit mieux vaut reculer pour mieux sauter.
Voilà, merci beaucoup, maître
Gatt. On va se poser des questions pour voir où est-ce que ça ne marchait pas, parce que vous l'avez dit, on a essayé de relancer, mais ça n'allait pas. Le gouvernement pouvait aussi voir ça. Mettre aussi la volonté politique.
Voilà, merci beaucoup, maître Gaston. Maître Gaston, merci beaucoup, parce que là, vous évoquez le principe selon lequel les mêmes causes produisent les mêmes effets, pardon, maître Adrien, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Avant toute chose, il faut d'abord chercher à savoir quelles sont les causes qui ont fait que plusieurs tentatives n'ont pas donné des résultats escomptés, parce que s'il faut compter des programmes tels que le DSRP, les programmes élargis du gouvernement, et tant d'autres, même les objectifs du millénaire, on sent que sur le terrain il y a vraiment des difficultés. Vous avez dit s'il faut commencer, il faut prioriser d'abord la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles, et aussi faire de l'agriculture une priorité des priorités. Merci maître Adrien d'avoir appelé des Kadanga. Maître Gaston, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Merci, à vous aussi, bonjour.
En une minute, quelle est votre intervention?
À une minute, disons que c'est en quelque sorte un projet. Nous devons équiper en quelque sorte les familles qui travaillent déjà actuellement une agriculture, mais qui, à mon avis, je qualifie de rudimentaire, parce que les gouvernements conçoivent les projets, mais qui ne produisent pas des effets. Imaginons que nous équipons, par exemple, dans la cité d'Idiopa, 100 familles qui s'occupent déjà de l'agriculture. Chaque famille a, par exemple, des bêches, des houes, des machettes, arrosoirs, pulvisateurs, brouettes, râteaux, salopettes, chapeaux, gants, bottes, une grande quantité de variétés de semences, des pesticides, des engrains, les poissons, leur nourriture, mais aussi les médicaments pour la pisciculture, et puis les poules et coqs pour l'élevage. Ces familles-là vont en quelque sorte trouver de la nourriture pour leurs membres de famille, mais aussi nourrir, à mon avis, leurs entités, parce que nous constatons que les gens ne mangent pas. Et puis apprendre à cette population-là la manière de varier, la nécessité de varier les aliments. Je pense que ce serait une bonne chose de travailler cette fois-ci avec ces familles-là maraîchères, qui, en quelque sorte, ont des terres très riches qu'on pouvait exploiter dans ce sens-là. Donc, le gouvernement doit accompagner ces gens-là. Moi, je pense techniquement aussi mettre à leur disposition les techniciens de terrain qui vont, disons, accompagner ces familles-là en les apprenant comment pratiquer l'agriculture au sens moderne, afin de voir vraiment une grande quantité de nourriture. Disons, à la fin des 3 ans, par exemple, d'accompagnement, on peut proclamer l'autosuffisance,
alimentaire.
L'autopromotion de ces familles-là qui peuvent continuer sur ces chemins ici de nourrir notre population qui meurt de faim. Mais voilà. Voilà.
Maître Gaston, merci beaucoup. Hein, vous allez appeler à l'implication des paysans dans les cadres de ce plan national d'investissement agricole, parce que ce sont eux qui sont au fait en activité intense dans ces secteurs. Là, vous rejoignez d'ailleurs les statistiques données par les experts lorsqu'ils évoquent qu'en RDC, l'agriculture occupe 70% de notre population active et contribue à l'économie nationale pour 50% du PIB si jamais on y insérait des mécanismes appropriés pouvant donner des résultats. Merci beaucoup, Maître Gaston. Olivier, vous êtes à Kikwit. Bonjour, Olivier. Merci de nous rejoindre.
Oui, bonjour, JR. Bonjour à tous les auditeurs.
En une minute, quelle est votre intervention?
Ah oui, ben, j'ai une minute, c'est un peu trop fait, mais enfin, je vais essayer. Bon, voilà ce que moi je vais dire. Je pense que pour faire quelque chose d'efficace, il faut avoir une vision. Et je pense que nous avons déjà des prédécesseurs, la roue a déjà été inventée, on n'a plus rien à faire que de suivre. Si vous prenez l'exemple de la communauté européenne, on a cherché à arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et pour arriver à ça, il fallait mener des actions. Et nous n'avons que à imiter. Quelles sont les actions à mener? Et donc, ça signifie que nous devons plus chercher midi à 14 heures. Les cultures de rente comme le cacao, je pense que pour le moment, il est démontré que la Côte d'Ivoire qui avait misé sur le cacao a aujourd'hui des problèmes dans ce domaine-là. Donc, ces histoires-là, je pense que nous devons les écarter un petit peu parce que la population, notre population n'a pas besoin de manger le cacao. S'il faut faire quelque chose pour l'exportation, nous avons des choses à exporter, mais ce n'est pas le cacao que nous devons prioriser. Et je crois que dire qu'il y a un déficit de financement, comme le disait le gouverneur de la banque, ce n'est pas ça la seule difficulté. Nous avons un problème d'hommes aussi. Donc, nous devons définir les moyens, et dans les moyens, nous avons les moyens matériels, les finances interviennent, c'est vrai, mais nous avons aussi les moyens humains. Je crois que nous devons axer notre politique sur la formation des véritables techniciens. Monsieur Gilles, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, nous ne formons plus notre population pour un travail efficace. Donc ça, c'est un sérieux problème, même dans les universités. La formation est devenue, ce n'est plus sur cette formation que nous devons compter. Il faut vraiment faire quelque chose de l'agriculture.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Vous rejetez en bloc l'idée selon laquelle le déficit n'est pas la seule difficulté que nous rencontrons, d'autant plus qu'il y a également le problème d'hommes. Si nous regardons, nous observons dans nos milieux de formation, là où on forme des futurs cadres, c'est vrai que la formation sur le secteur agricole est un tout petit peu négligée. Et vous avez moins d'étudiants, par exemple, dans l'agronomie à Yangambi, à Ifayangambi ou encore à l'université de Kinshasa. C'est question de valoriser ces secteurs pour donner encore goût à ces jeunes qui seront des futurs cadres. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir appelé 081-890-4969 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, Monsieur Ignace Biza à Boya, nous ajoutons à ses préoccupations quelques messages des internautes, hein, Francine Matanda, qui dit on peut bel et bien financer des millions. La réussite d'un projet dépend du service de passation des marchés, que ce dernier puisse attribuer des marchés à des entreprises existantes et non fictives pour la réussite du secteur. Guylain Kitane, depuis Kiwanja, dit ceci, le gouvernement doit sensibiliser les concernés pour qu'il leur donne les pistes de solutions pour l'aboutissement complet du travail. Donc là, vous rejoignez Maître Gaston qui parlait tout à l'heure de l'implication des paysans. Krisho Moulekia de Goma, je suis sceptique car ce financement n'aura pas comme d'habitude de suivi. Certains seront accusés de détournement au détriment du peuple congolais. Nous en savons un peu plus avec des tracteurs qui ont été attribués, remis aux provinces et aujourd'hui, on n'en parle pas. Rodrigue Kassereka de Goma, nous pensons qu'on doit d'abord établir l'autorité de l'État partout dans les coins du pays, que ce projet ne s'arrête pas à la simple distribution des semences, moins encore des tracteurs, mais qu'on puisse songer à la construction des routes et des dessertes agricoles. Maître, ingénieur Biza Boya, Rico et Ignace, vous avez suivi les uns et les autres, que répondez-vous à leurs préoccupations?
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire autour
de la relance du secteur agricole dans notre pays, mais en gros, en ramassant tout ce qu'il y a comme point de vue des uns et des autres, on peut centrer tout simplement en disant ceci. D'abord, il y a lieu d'avoir une très bonne politique agricole, c'est-à-dire de ce secteur agricole, il faut des politiques sur le plan national qui, en fait, est l'architecture de base pour savoir quels seront les résultats qu'on aura à obtenir d'ici 5 ans, d'ici 10 ans et au-delà de ces 10 ans. Donc, ça, c'est l'élément primordial. De deux, le gouvernement a toute la responsabilité de pouvoir prendre en compte ce secteur-là de manière à ce que le budget national qu'on doit allouer au secteur agricole par rapport aux recommandations des chefs d'État et de gouvernement réunis à Maputo il y a de cela 10 ans, pour que notre pays puisse atteindre ne serait-ce que 6% uniquement pour 6% évidemment du budget national alloué au secteur de l'agriculture. Parce que pour cette année, par exemple, vous verrez que le budget national alloué au secteur agricole est en deçà de 2%, ce qui est totalement insignifiant et dangereux même pour valoriser ce secteur-là. Donc, le moyen financier sont le déclencheur qui, en fait, permettent pour un pays, pour une nation, de pouvoir accroître sa production interne. Le troisième élément, c'est le climat d'affaires. Si vous voulez que les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers, puissent se lancer dans le secteur agricole et rural, il faudrait que, sur le plan institutionnel, que ce climat-là soit totalement apaisé, de manière à ce que ça accorde une garantie aux investisseurs pour venir dans votre pays. Mais aussi, il faudra ajouter la bonne gouvernance. Par rapport au Peña, vous aviez suivi, et nous avons tous vécu, il y a eu au total 13 engagements. Sur le plan national, il y a eu des institutions qui se sont engagées, notamment le fonds de promotion pour l'industrie. Le gouvernement congolais s'est engagé par rapport au budget du Peña qui se chiffre à plus de 5 milliards de dollars américains, mais il y a aussi des privés qui se sont engagés. Mais ces privés qui se sont engagés, ils doivent être sécurisés. Ce sont des lois qui sécurisent, bien sûr, sur le plan juridique, et de manière à ce que ces investissements-là devront répondre à cette croissance du domaine du secteur agricole.
Oui, mais, la Banque mondiale
s'est engagée, ainsi que tous les autres partenaires techniques et financiers.
Oui,
donc,
bref,
nous disons, tout ce que les gens parlent, que ce soit sur le plan de pouvoir accorder un regard assez attentif aux petits producteurs agricoles ou à l'agriculture familiale, parce que dans le cas du Peña, vous avez les deux grandes activités de la production agricole, c'est-à-dire l'agribusiness et l'agriculture familiale, doivent travailler en corrélation, en synergie, pour que justement le petit producteur agricole, qui eux représentent le gros de la population de notre pays, à près de 80%, qui ne se sentent pas frustrés, piétinés par l'agro-business. Parce que le cacao, le café et les autres grandes productions de rente, ce sont les agro-business qui vont s'en occuper. Tandis que les autres cultures de subsistance ou les petits élevages, c'est les petits producteurs agricoles. Donc il faudra mettre tout le monde à l'aise et c'est à travers la loi que tout le monde devra se sentir totalement sécurisé.
Voilà, monsieur Biza, on va revenir à vous, hein, parce qu'il y a tout à l'heure un auditeur qui avait souhaité avoir des précisions par rapport à l'échec enregistré, hein, à chaque tentative de pouvoir relancer l'agriculture. Nous avons vu en 2005, même avec des ministres qui se sont succédés à la tête du ministère de l'Agriculture, chacun en ce qui les concerne, il y a eu quand même des tentatives pour amener quand même l'agriculture, faire de l'agriculture une priorité des priorités. Mais il n'y a toujours que des échecs, selon cet auditeur. On aura des précisions avec vous pour savoir qu'est-ce qui serait à la base de cela. Mais il est temps d'accorder la parole à Placide qui est en Bougimaï et à Ernest qui est en Matadi. Placide, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, JR, bonjour à tous.
Placide, votre point de vue en une minute.
Merci beaucoup pour la parole. Je crois que la croissance économique qui n'est pas soutenue par l'agriculture elle est vaine. C'est-à-dire, une toute bonne croissance inclusive doit être soutenue par l'agriculture. Et maintenant, pour booster même l'agriculture, il faut avoir une bonne politique agricole. C'est-à-dire, vous conviendrez aussi avec moi que non, lorsque nos agriculteurs essayent, tant soit peu, de booster un peu la production, ils sont rattrapés par l'échec ou l'absence d'infrastructures viables et durables qui leur permettraient de vacuer leur production dans les grands centres de consommation. Donc, la bonne politique serait aussi de faire en amont booster l'agriculture, booster la production de produits agricoles, et aussi en aval, les routes. Parce qu'on peut bien produire, mais lorsque ces produits-là ne sont pas amenés dans le grand centre de consommation, là, ces produits seront vont courir dans les lieux de production. C'est un peu ma compréhension.
Merci beaucoup, Placide Galvani, d'avoir appelé de Mbujimayi. Vous évoquez la question sur les infrastructures agricoles. Hein. Il n'y en a pas assez dans le pays. Donc, pour booster la production, en amont, déjà, il faut y penser. C'est votre point de vue. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour et bonne arrivée sur les ondes de Radio Capi.
Bonjour, je suis bon.
Vous avez la parole. En une minute, votre point de vue.
Oui, moi, je crois que pour réussir cette relance économique, qui serait important au niveau national, le ministère délégué par le ministère provincial, il y a des études pour regrouper les pays en poule.
Voilà, Ernest, est-ce que vous pouvez... Voilà, s'il vous plaît.
...industriel à pouvoir rapidement pour que dans 3, 4, 6 mois, on puisse déjà produire et vendre ou consommer.
Voilà, Ernest, s'il vous plaît. Ernest, s'il vous plaît, on a du mal à comprendre ce que vous dites. Donc, vous pouvez éteindre votre poste récepteur, comme ça on peut s'écouter par téléphone.
Dans quelle période et dans quel point de la province de la République, et puis les cultures internes ou les familles. Donc, si on arrive à tenir ce site, je crois qu'on peut réussir. Mais si on crée la campagne pour campagne, je crois que.
Voilà, dommage, Ernest, on ne saura pas continuer avec vous. On ne peut pas vous garder le plus longtemps possible à Londres hein, avec cette mauvaise qualité de communication. Il est temps pour nous de lire également quelques messages que les auditeurs nous ont déposés sur notre page Facebook. Gentil Kabouyi de Kinshasa dit ceci, pour la réussite de ce projet, la gestion doit être assumée par le même organisme, car avec nos dirigeants, nous risquons de connaître des cas de détournement. Le secteur agricole est un secteur très capital pour le développement de notre pays. Eric Malengela, j'aimerais à ce que, quand le lancement de la réalisation de ce projet sera fait, que l'État disponibilise aux différents lieux d'exécution des délégués en pied d'œuvre qui seront du domaine. Bénédiction Miigo de Bukavu, pour relancer ce secteur au travers de ces financements, c'est juste demander à nos autorités d'avoir une volonté de servir le peuple et oublier les intérêts égoïstes au détriment des intérêts publics. Honoré Poulumba, c'est bien avec des financements pour développer un secteur quelconque, mais nous demandons une bonne gestion de ces fonds. Dans ce cas, il faut qu'il y ait un comité de suivi. Monsieur Biza.
Oui. En fait, il y avait une question que vous m'aviez posée là pour savoir quelle était en fait la base de l'échec des programmes.
Oui, de plusieurs tentatives de programmes. Il y a eu des programmes tels que Parsa, Pressa. Voilà, si je crois que si j'ai encore la liste n'est pas exhaustive, donc je crois qu'on peut quand même citer le Pressa et d'autres programmes que le gouvernement congolais a pu initier.
Oui, allô.
Oui, Monsieur Biza.
Oui.
Voilà, j'ai dit, qu'est-ce qui serait à la base de l'échec de plusieurs tentatives de relance dans le secteur des activités du secteur agricole?
Oui, en fait, on va prendre quelques éléments assez frappants. Nous disons, si un programme échoue, bon, ici nous sommes dans le secteur agricole, il y a lieu par exemple de savoir que pour exécuter un programme, il y a lieu de pouvoir envisager une série de stratégies efficaces et adaptées à chaque site agricole ou rural, ou les deux à la fois, site agricole et rural. Donc, s'il n'y a pas de stratégie dans la mise en œuvre, vous devez simplement vous attendre à un échec de ce programme-là. Parce que le programme, lorsqu'on l'établit, lorsqu'on le projette, c'est tout à fait une étude, une analyse qui a donné cette architecture de programme. Sans stratégie, en tout cas, vous allez à l'échec. Ensuite, dans la mesure où un programme est déjà déclenché, il faudra qu'il y ait un mécanisme de suivi-évaluation qui permette à recentrer le programme. Parce qu'on peut, par exemple, avoir un programme triennal ou quinquennal, mais aussi longtemps que vous ne faites pas le suivi de tout ce qu'il y a comme activité, bien sûr, si vous attendez la fin du programme pour pouvoir récolter le résultat, rassurez-vous que vous tomberez dans un échec totalement puissant. De cette manière-là, si vous n'avez pas établi de stratégie, de programme de suivi et évaluation, attendez-vous à un résultat totalement nul. Mais si tout est respecté, que ce soit ceux qui sont animateurs ou parties prenantes dans ce programme-là, ils doivent à tout moment se rencontrer pour évaluer ce qu'ils devraient faire, ce qu'ils ont fait, en fait, de manière assez réaliste, pour dégager le point fort, le point faible, et en même temps voir à quel pourcentage le point faible ont atteint, quels sont les pourcentages atteints par le point fort, et ce graphique-là vous permet justement de pouvoir évoluer et savoir que le programme tel que vous l'avez déclenché à l'an 1 ou le jour 1 jusqu'à l'an 5, si c'est un quinquennal, vous aurez tel résultat.
Oui, monsieur,
c'est une bonne manière de pouvoir suivre l'évolution d'un programme. Mais si un programme, on l'a établi, on l'a mis dans un tiroir, on ne sait pas quel serait l'apport de quel site qui a été ciblé, et vous ne connaissez même pas comment ce programme-là est vécu au niveau du pays dans un coin le plus reculé par rapport à l'administration centrale, parce que le malheur aussi, tous les programmes sont gardés au niveau de l'administration centrale ici à Kinshasa, et que les bénéficiaires sont à 1000-2000 kilomètres, et ils n'ont aucune connexion avec l'administration centrale de l'agriculture rurale. En ce moment-là, c'est vraiment un échec qu'on a préparé dès le lancement de ce programme-là.
Alors, prenons le cas, par exemple, de programme Pressard. Pourquoi ça n'a pas marché?
Le programme Pressard.
Pressard.
Programme agricole pour la réhabilitation du secteur de l'agriculture.
Oui.
S'il vous plaît, je dis ceci. Le PARSA, c'est un programme institutionnel, d'appui institutionnel. Et il est là pour exécuter des activités définies par la Banque mondiale dans ce secteur-là, par exemple, ça peut être la construction de bâtiments administratifs pour le ministère de l'Agriculture, tant au niveau national que provincial, tandis que pour le bénéficiaire, c'est-à-dire les exploitants agricoles au niveau de la base, ça peut être la construction des entrepôts. Parce que, vous savez, les agriculteurs, petits producteurs, ils ont d'énormes difficultés, par exemple, pour le stockage de leurs produits.
Mais alors, aujourd'hui, il y a combien d'entrepôts par rapport à ces programmes déjà mis en œuvre à travers le pays?
Oui, mais là, c'est plutôt le responsable de PARSA qui peut vous répondre à une telle question.
Voilà, vous êtes un observateur agricole.
Mais à votre avis, par rapport à ce que nous avons comme mission quand nous sommes à l'intérieur du pays, que ce soit dans le Bandundu et ailleurs, nous voyons le travail que produit le PARSA, c'est vraiment un travail remarquable, parce que les entrepôts, ils sont là.
Voilà, nous allons prendre une autre série des auditeurs avec Chansar qui est à Nyunzu au Katanga. Chansar, bonjour. Chansar, vous êtes avec nous? Voilà, Chansar n'est pas de plus en ligne. Monsieur Biza, nous revenons à vous. C'est vrai qu'il y a eu des documents stratégiques pour la réduction de pauvreté qui, dans sa première partie ou deuxième, donc DCRP 1 et DCRP 2, et qui pratiquement ont rejoint également le programme élargi du gouvernement. Alors, ben, il y avait des documents très stratégiques, des documents importants qui ont pu définir et aussi le programme de relance de l'agriculture en RDC. Mais tout ça, c'était des efforts en vain.
Non. Moi, je pense que si vous lisez, en fait, la dernière version du Programme national d'investissement agricole, disons du PENIA, vous verrez qu'on a pris en compte tout ce qu'il y avait comme programme antérieur, exécuté ou non exécuté, de manière à pouvoir recentrer tout ce qu'il y a comme besoin dans les secteurs de l'agriculture et du développement rural. Donc cela signifie que on prend une nouvelle, disons un nouveau décollage entre 2013, qui est en fait en train de se terminer, et 2020, dans les 8 ans là, de manière à ce que tout ce qu'il y a comme programme de l'agriculture au niveau national devrait être suivi, évidemment en rapport aussi avec les politiques agricoles communes au niveau de la sous-région. Nous, on est de l'Afrique centrale. D'autres pays, en tant que membres de la CAC, devraient aussi s'impliquer dans la politique agricole commune sous-régionale pour que, lorsque, au plan du marché international, tous nos produits devraient être qualifiés. On voit là-bas « made in RDC ». Et du point de vue quantité, du point de vue qualité, pour que cette concurrence-là nous permette en fait de nous mesurer par rapport à nos voisins. Parce que la plupart de nos produits, que ce soit les cafés par exemple, sortent dans les frontières et sont vendus par nos voisins comme si c'était eux qui étaient des producteurs. À ce moment-là, c'est nous qui perdons. En tant que producteurs, nous ne gagnons absolument rien. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, le PENIA prend en compte tous ces aspects-là de manière à ce que ce soit le produit qui sorte dans notre pays, une fois sur le marché africain, qu'on sache que c'est le produit de la RDC et que ces produits-là puissent être bénéfiques au trésor national. Donc, cela veut dire tout simplement que le PENIA n'est pas sorti comme ça en l'air, mais le PENIA a, sur base des études ou des données qui existaient, on a pu faire la nouvelle architecture du plan national d'investissement agricole. Donc rien n'était abandonné, mais on a pris en compte tout ce qui a déjà été fait, les expériences malheureuses et ce qui était bon pour qu'on puisse lancer le plan national d'investissement agricole.
081-890-4969, vous avez également la possibilité de déposer vos commentaires sur notre page Facebook.
Chaque jour, la fréquence de la PNI Le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces à 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Nous avons en ligne Josias qui est à Kananga et Gabriela Arou. Josias, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, c'est... C'est Jonas Soto de Canard. Bonjour, monsieur.
Voilà, Jonas, vous avez la parole.
Oui, vous m'excuserez un peu. J'ai pensé qu'on devait avoir un responsable du ministère de l'Agriculture pour peut-être nous éclairer. Malheureusement, nous sommes devant un invité qui n'est pas du ministère de l'Agriculture. Que cela m'en tienne, je vais un peu faire un pas en arrière. Je m'appelle en 2011, le président dit, dans son discours, le président dit nous avons 3000 tracteurs. Et aujourd'hui, il n'est même pas capable peut-être de nous faire un bilan. Parce que nous voyons ces tracteurs-là sur la ville ici, commencer même par faire les transports de l'eau pour certaines autorités de la ville ici, ce qui est grave. Moi, j'interpelle un peu la conscience de nos partenaires. Parce que je me rappelle, le mois passé, la Cour des comptes de l'Union européenne reprochait des choses à l'Union européenne. Manque de vision claire dans le financement des projets et manque de suivi. Moi, je souhaite que ces fonds ici, ah oui, là, je passe directement aux propositions,
oui,
il y a un peu la rigueur dans la gestion des financements, c'est-à-dire les partenaires doivent faire en sorte que l'argent ne puisse pas être dilapidé par nos dinosaures. À mon avis, comme les gouvernements qui se sont succédés ont échoué à relancer la production agricole de ce pays, je pense que ces fonds doivent d'abord cibler même trois promesses du pays. Et là, je parle peut-être de ce qu'un professeur Mambakabas parlait, des pôles de croissance. C'est-à-dire quoi? Cibler d'abord trois promesses du pays, et là, on peut d'abord voir les résultats escomptés. À partir de ça, on peut maintenant voir le reste des promesses. Parce que, je me rappelle, il y a un enseignant qui nous disait en économie égale, l'agriculture en soi a trois fonctions dans une économie. Lancement de la croissance, financement de la croissance et ajustement de la croissance. Parce que nos autorités ne font que parler. Notre agriculture, parmi les trois fonctions que moi j'ai citées, notre agriculture est remplie quelle fonction. C'est pour vous dire que nous ne pouvons pas être à nous parler à tout moment de fonds. Nous avons les fonds, nous avons les financements. Les résultats escomptés, nous ne les voyons pas. En plus de ça, il ne faut que parler de l'agriculture. Je viens, il y a de cela une semaine, j'étais dans le territoire de Moïka, avec des routes impossibles, impraticables. Comment les paysans, les gens qui sont en train de produire, même quand nous avons cette production agricole-là, comment cette production peut atteindre la ville pour peut-être vendre tout ce qu'on est en train de produire. Voyez ouais, un peu l'aspect des problèmes. Nous ne pouvons pas parler de l'agriculture sans parler, des routes et autres. En tout cas, je vous remercie, c'est ça ma
pensée. Merci beaucoup, Jonas, d'avoir contribué dans cette émission, hein, et surtout en évoquant une vision claire dans les financements des projets, que ce soit au niveau de partenaires financiers et aussi au niveau de ceux qui reçoivent ces financements pour que finalement nous puissions avoir des résultats escomptés. Mundeke Chirimpoué de Bukavu dit ceci, je propose qu'il y ait une volonté manifeste des intervenants, créer des zones agricoles, former des coopératives agricoles, agricoles paysannes, subventionner les intrants agricoles, engrais, semences, améliorer, produits phytosanitaires, déterminer une spéculation pour chaque zone d'après les conditions écologiques et puis encourager la production paysanne par la création des débouchés, des déserts agricoles, etc., etc. Gabriel, vous êtes à Arou, bonjour. Gabriel, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, Monsieur Biza, vous avez suivi la réaction tout à l'heure de Jonas, hein, de Kananga, qui a évoqué les trois fonctions de l'agriculture au niveau d'un pays, et aussi le message de Mundeke qui parle, qui donne quand même quelques propositions. Comment vous réagissez?
Oui, sur le plan théorique, hein, ils ont totalement raison. Totalement raison, parce que je ne pourrais pas discuter sur les fonctions de l'agriculture. Et aussi, vous voyez, dans un pays totalement mitigé comme le nôtre, où il y a plusieurs problèmes à la fois, mais je crois que lorsqu'on tient ces problèmes de l'agriculture, il faut bien les tenir parce que, un, nous avons des potentialités assez remarquables qui font que le monde entier a un regard assez attentif vers notre pays. Notamment, il s'agit, comme je l'ai dit là-bas, d'entrée de jeu, du point de vue climatique et écologique, du point de vue même de réserve de la terre. Nous avons des terres agricoles assez intenses, près de 80 millions d'hectares. Mais aussi, dans un pays comme le nôtre, il faut tenir compte de ce qu'on peut appeler d'un mouvement associatif en émergence et en expansion sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire le paysan au complet qui doit se regrouper pour défendre leurs intérêts, pour protéger leurs terres. Mais au-delà de ça, nous sommes aussi un marché très très important, un marché potentiel, parce qu'avec 70 millions d'habitants, qui pour la plupart sont dans de cités urbaines, et à côté de nous, nous sommes un pays avec qui a 10 pays qui nous avoisinent, 10 pays qui nous entourent, c'est aussi un marché important. Sans pour autant penser en Europe ou en Amérique ou en Asie, mais les 10 pays qui entourent la RDC, c'est un marché assez important pour nous. Et à côté de cela, comme je l'ai dit, nous sommes aussi un pays où les gens ont de l'initiative. Et aujourd'hui, si l'ensemble du pays est dans une paix assez durable, imaginez-vous tous les Congolais dans l'agriculture, du boom. Et ces booms-là, pour que ça soit bénéfique à l'ensemble du pays, on va aller sûrement dans la modernisation des routes, que ce soit des routes de desserte agricole prioritairement, parce que beaucoup de nos milieux dans les recoins du pays, ils produisent mais ils ne savent pas écouler, tout simplement parce qu'il n'y a pas de bonnes routes. Mais aussi, nous avons l'avantage dans un pays comme le nôtre, qu'il y a beaucoup de cours d'eau. Et ces cours d'eau, une fois bien exploités, ce sont aussi des voies d'évacuation de nos produits agricoles. Donc, que ce soit pour les produits vivriers, que ce soit pour l'élevage ou la pêche, la RDC, notre pays, c'est vraiment un pays de grande stratégie par sa position, telle que je l'ai dit là-bas. Et 10 pays qui vous entourent, c'est déjà un marché important. Donc, je crois que les amis, que ce soit celui de Kananga qui a parlé de Moïsa, ou notre ami qui a suivi après celui de Moïka, c'est M. Jonas. Je crois qu'ils ont totalement raison, mais Au-delà de tout ça, il nous faudra aussi une cohésion assez globale pour que l'ensemble des petits producteurs agricoles, ils ont pratiquement le même problème, qu'ils soient de la province orientale, qu'ils soient du Maniema, de la province de l'Équateur, Bandundu, Bakongo ou de n'importe quelle autre province, Kassai occidental, oriental, vous sentez que le petit producteur, lui, a le même problème, c'est-à-dire le renforcement de capacités dans la connaissance des nouvelles techniques de production, que ce soit dans l'acquisition des intrants, que ce soit dans à l'accès aux crédits bancaires, ils ont tous le même problème. Donc, c'est pour ça que nous avions dit, l'État devrait, puisque nous avons déjà une loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole, c'est à l'État de pouvoir lancer le mécanisme. Et comme l'État a pris l'initiative de s'engager dans le plan national d'investissement agricole, nous considérons que c'est un départ très important et nous devons saisir la balle au bon pour que cette fois-ci ou jamais que l'agriculture soit totalement relancée.
Voilà, Monsieur Biza, nous présentons d'abord les excuses hein, parce que nous avons du mal à relancer les auditeurs. Ils sont nombreux hein, qui souhaitent d'ailleurs participer à ces débats. Oui. Vous savez qu'il a plu sur Kinshasa ce matin, donc il y a peut-être quelques perturbations au niveau de communications et des réseaux de télécommunications. Nous allons peut-être relancer encore d'autres auditeurs pour permettre à ce que nous puissions recueillir aussi leur point de vue par rapport à cette thématique. Mais par rapport à ce que vous dites, nous allons encore lire quelques messages des auditeurs. Nous avons Blanchard Kayembe de Kinshasa. Il faut que ses partenaires eux-mêmes s'impliquent pour créer une commission de suivi capable de contrôler les bénéficiaires de ce fonds pour bien réaliser ce projet. Nathanaël Mutunga, que la volonté des uns et des autres soit manifeste pour que cette fois-ci le résultat tant entendu depuis plusieurs décennies soit visible sur le terrain. Patrick Bagoula, chaque jour on nous finance alors que le résultat sur le terrain ne le démontre pas. À mon avis, nous devons nous-mêmes chercher comment développer notre pays sans intervention des Occidentaux. Malcolm Mouindo, c'est une bonne idée et de plus, mais comme d'habitude c'est un projet qui restera sur papier, l'expérience nous permet de finir par cette conclusion. Wait and see, et l'avenir nous donnera raison. Monsieur Biza.
Oui, je crois qu'à l'heure actuelle, même les Occidentaux, quand vous lisez très bien ce qu'ils ont comme principe, c'est de nous amener vers une autonomie. Nous devons nous prendre en charge. Mais considérons que cette période où le PENIA va s'exécuter serait une période transitoire, parce qu'on ne peut pas sortir d'un état ou d'une situation à une autre sans qu'il y ait une transition. Nous pensons que ceux qui parlent de à ce que nous puissions nous-mêmes chercher nos moyens et que nous ne pouvons plus être trop dépendants, ils ont raison, c'est vrai. Mais il faut qu'il y ait une période tampon, une période de transition pour nous permettre justement de nous préparer davantage et devenir effectivement autonomes dans cette prise en charge que nous aurons à nous-mêmes à nous assumer. Donc là, il n'y a aucun... C'est indiscutable, c'est ça, c'est tout ce qu'il faut faire, parce que il y a beaucoup de pays qui l'ont démontré. Ça peut être, nous citons le cas du Brésil, de l'Inde. Quand ils ont pris conscience qu'ils devraient travailler sur base de ce qu'ils ont comme ressources, et ils ont mis du paquet, aujourd'hui, sont les deux pays le monde.
Voilà,
du monde et que nous devons savoir aussi, nous, un jour, atteindre ce niveau-là.
Voilà, Monsieur Biza, on va quand même vous poser une dernière question avant de prendre également la dernière série des auditeurs. C'est vrai, nous revenons toujours sur les discours du directeur général de la Banque Centrale qui, au fait, disait pour soutenir ce programme, la Banque Centrale ça s'attellera donc à créer un guichet de financement de l'économie en vue de canaliser les crédits vers des secteurs prioritaires, d'opérationnaliser la société de la centrale des risques et de mettre en place des fonds de garantie des crédits pour sécuriser au fait toutes les banques qui accorderaient donc des crédits aux paysans ou à toutes les personnes qui s'adonneront donc aux activités agricoles ou aux activités champêtres. Monsieur Biza, vous êtes avec nous?
Oui, je vous écoute.
Voilà, comment vous réagissez?
Oui, par rapport à l'intervention ou à la proposition du directeur général de la banque, Kayembe Wakayembe, il avait tout à fait raison. Mais quand vous lisez, prenons l'article, je ne sais pas,
voilà,
fondamentaux relatifs à l'agriculture, c'est l'article 56, hein?
Oui.
l'État dit il a créé un fonds national de développement agricole, si après de nommer fonds, destiné à financer l'agriculture. Hein? Donc, l'État a déjà...
Voilà, vous dites, je crois qu'on a des petits soucis avec Bizarre. Voilà, on a des petits soucis, là on ne vous suit plus, hein, monsieur Bizarre. Est-ce que vous êtes avec nous? Voilà, dommage, parce que nous avons des petits soucis avec nos lignes téléphoniques, parce que vous le savez, il a plu sur Kinshasa, et puis il y a quelques perturbations au niveau des communications. Et je l'ai dit tantôt, nous avons du mal à relancer encore nos auditeurs qui sont nombreux à participer. Voilà, il est encore en ligne, hein, monsieur l'ingénieur Bizarre. Voilà, allez-y.
Oui, on parlait du fonds.
Oui, hein? Allez-y, allez-y rapidement.
La banque va ouvrir un guichet. En fait, par la loi, le financement était déjà prévu pour le développement du secteur agricole. Donc, et tout ce qui reste à faire, c'est justement l'opérationnalisation de ces fonds-là. Que ce soit l'initiative de la Banque centrale ou même ce qui est contenu dans la loi, c'est-à-dire les exploitants agricoles, à l'heure d'aujourd'hui, ils attendent à ce que ces fonds-là soient opérationnels. Et là, c'est vraiment le pouvoir discrétionnaire du ministre de l'Agriculture qui en est le patron. C'est lui qui saura à quel moment ce fonds-là sera effectivement lancé.
Voilà, nous savons qu'il se pose réellement problème de l'encadrement des paysans. Hein. Ça constitue également aussi un blocage pour la réussite de la relance des secteurs agricoles. Alors je crois qu'aujourd'hui, le PENIA a tenu compte même de cet aspect des choses, monsieur Bizarre.
Oui, les petits producteurs agricoles, ils sont partie prenante parce que ils ont, eux, signé ce qu'on peut appeler le document de base dans le cadre du PDDA. C'est ce document-là de base qui a déclenché justement le plan national d'investissement agricole. Donc la charte, on appelle ça la charte. Que ce soit l'État congolais, que ce soit le PTF, que ce soit la société civile, mais en priorité les opérateurs, disons les organisations paysannes.
Oui, monsieur Bizarre, nous allons revenir à vous d'un moment à l'autre après le flash d'information. Voilà, merci. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs et merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous revenons à vous, ingénieur Bizarre Ignace Rico. On parlait tout à l'heure de l'article 56 de la loi agricole qui parlait de fonds alloués aux paysans. Ingénieur Bizarre. Voilà, dommage, nous allons retrouver encore, on va relancer notre invité à ingénieur Bizarre. Vous nous excuserez pour ces désagréments, voilà, dû à la perturbation liée également à la pluie qui est tombée sur Kinshasa depuis ce matin. Alors, Gentil Kabouyi de Kinshasa dit ceci: pour la réussite de ce projet, la gestion doit être assumée par les mêmes organismes, car avec nos dirigeants, nous risquons de connaître des cas de détournement. Et il est appuyé par Hero Machinda de Mbujimayi qui dit que il faut que les partenaires techniques et financiers puissent tous se mettre d'accord et déléguer quelques membres afin d'avoir l'œil sur la somme d'argent, donc le financement. Honoré Poulumba, c'est bien avec des financements pour développer un secteur quiconque, mais nous demandons une bonne gestion de ces fonds. Dans ce cas, il faut qu'il y ait un comité de suivi. Blanchard Kayembe de Kinshasa, lui, il parle plutôt de l'implication également des partenaires. Il dit ceci: il faut que ces partenaires eux-mêmes s'impliquent et puissent créer une commission de suivi capable de contrôler les bénéficiaires de ce fonds pour bien réaliser ce projet. Nathanaël Mutunga, que la volonté des uns et des autres soit manifeste. Tandis que Patrick Bagoula lui dit ceci: chaque jour on nous finance alors que le résultat sur terrain ne les démontre pas. Ingénieur Bizarre, vous êtes à nouveau en ligne?
Ok.
Voilà, tout le monde en appelle à l'implication de partenaires techniques et financiers. Comment réagissez-vous?
Oui, en fait, par rapport au PTF, partenaires techniques et financiers, je pense qu'il y a un grand travail qui est en train de se faire. Le fait qu'eux nous soutiennent, ce sont des appuis. L'appui peut être institutionnel ou ça peut être un appui purement technique. Et petit à petit, au fil du temps, nous pensons que le souci pour nos communautés de base, c'est de s'autonomiser de manière à ce que ce qu'ils produisent produit des intérêts ou des bénéfices, et c'est sur base de ces bénéfices qui devraient être à mesure de se prendre en charge. Et pourtant, tout ce qu'ils éprouvent comme difficulté dans l'écoulement de leurs produits, ce qui fait qu'en réalité, ils ne parviennent pas à faire de bénéfices qui leur donnent une autonomie. C'est ce qui fait qu'ils rentrent toujours à la case du départ, ils doivent chercher ou trouver des semences et les autres intrants. En conséquence, ils n'évoluent pas. Et comme ils n'évoluent pas, ils sont dépendants. C'est ce qui fait que les autres organisations doivent venir en appui pour qu'eux, ils aient un peu de souffle. Or, si l'État avait pris les choses dès le départ, vous verrez que ces gens-là, les petits producteurs agricoles, n'auraient pas de problème, par exemple, d'écoulement de leurs produits, de stockage de produits et, en même temps, de la commercialisation. Ça se passerait en prenant un système assez simple. Vous avez, par exemple, un regroupement de paysans qui exploitent 250 hectares. Par exemple, ils produisent le café. Et l'État viendrait, il va évaluer cette production-là qui coûterait autant. Et ces gens-là auront déjà l'argent avant même qu'il y ait la récolte. En ce moment-là, ils vont travailler dans une autonomie qui ferait que leur lien avec l'État ferait qu'ils avancent et qu'ils se développent. C'est comme ça que nous voyons, il y a plusieurs systèmes. Et même avec le système de pôle de croissance, ça signifie qu'on a par exemple une ou deux provinces réunies, ça crée un pôle de croissance économique. C'est justement pour soutenir cette production interne, de manière à aller de l'avant dans le sens de donner de l'argent liquide auprès des petits producteurs agricoles. Parce qu'aujourd'hui, ils sont plus exposés à la pauvreté dans la mesure où tout ce qu'ils produisent, lorsqu'ils doivent ramener ça à 500 km pour la ville de Kinshasa, qui est le grand centre de consommation, ils sont l'objet de plusieurs tracasseries policières et administratives. Et à la fin, quelqu'un qui a embarqué 60 sacs de cossettes de manioc, il arrive à Kinshasa, dans sa chaîne de valeur, au lieu de vendre par exemple le sac d'une valeur à 40 000 francs congolais, vous verrez qu'à la fin, le monsieur ne rentrera à son milieu de production qu'avec 200 000 francs. C'est-à-dire qu'il a connu une énorme perte parce que la trajectoire pour venir vendre son lieu de production jusqu'à Kinshasa lui a tellement coûté de l'argent et qu'il est sorti totalement perdant.
Voilà, alors monsieur Biza, la RDC se classe aujourd'hui comme le deuxième État d'Afrique centrale après le Burundi à tenir son business meeting dédié au financement de son PENIA, le programme national d'investissement agricole. Est-ce qu'on peut dire que là ça traduit naturellement la volonté manifeste des autorités congolaises à vouloir cette fois-ci réussir la relance agricole?
Bon. Nous le pensons en théorie, oui. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est la pratique. Un pays comme le Burundi, s'il a réussi à être premier dans la publication de son PENIA, ça suppose qu'il y a des mesures d'accompagnement qui ont été totalement prises en compte. De la même façon ici chez nous, l'implication du gouvernement dans la confection du PENIA témoigne en fait cette volonté-là. Ça, c'est l'aspect de la volonté. Ça, c'est aussi important, mais nous attendons maintenant la mise en œuvre. Ça, c'est l'étape la plus importante dans la mesure où, lorsqu'on est allé au business meeting, si vous étiez là et avec les autres, vous verrez qu'on a parlé de tout, sauf évidemment du PENIA lui-même. Or, c'est le PENIA qui nous avait réunis. Et en plus, on a envisagé aucun mécanisme de vulgarisation du PENIA à travers le pays. Ça, c'est un autre aspect important. Parce que le paysan, sont-ils informés du PENIA? C'est quoi le PENIA? Qu'est-ce que ça va apporter aux petits producteurs agricoles? Ils ne savent pas. Or, ça, c'est un travail très important, c'est-à-dire l'information. Vous, en tant que médias, vous savez que quand on a l'information, on a le pouvoir. Mais sans information, on est totalement perdu. Donc, nous pensons qu'à l'heure d'aujourd'hui, la volonté du gouvernement qui s'est manifestée dans le lancement du PENIA devrait aussi non seulement se focaliser dans la recherche du financement, mais aussi dans la communication pour que l'arrière-pays puisse s'approprier justement de ce plan national d'investissement agricole pour que dans les 2 ans, les 3 ans, lorsqu'on aura mis en œuvre le PENIA, qu'on sente que réellement tous les fils et filles de ce pays ont effectivement adhéré dans cette nouvelle politique agricole et rurale.
Voilà, alors on va terminer avec vous, hein, ingénieur Biza, Ignace, oui. Rico, par rapport à cette émission, avec cette intervention de Mundeke Chiripoué, qui disait, je propose qu'il y ait une volonté manifeste des intervenants, là il parle des partenaires techniques et financiers, également le gouvernement congolais. Alors il propose quelques pistes, créer des zones agricoles, former des coopératives agricoles, paysannes, subventionner les intrants agricoles en grains, semences, améliorer, produits phytosanitaires, déterminer une spéculation pour chaque zone d'après les conditions écologiques et enfin encourager la production paysanne par la création des débouchés, des dessertes agricoles, etc. etc. Comment vous réagissez?
Oui, en fait, le cadrage qu'il fait n'est pas mauvais, c'est un bon cadrage et je crois que même dans les peignages, tout cela a été pris en compte. C'est comme ça que si c'était une émission où on était face à face physiquement, vous auriez remarqué que on a pris en compte tous ces aspects-là. De manière à ce que, par exemple, en ce qui concerne, on prend un programme au hasard comme ça, je prends le programme 1, c'est la promotion des filières agricoles et de l'agribusiness. Dans ce programme-là, il y a une série de composantes qui font que, lorsque vous lisez, ne fût-ce que une ou deux composantes, vous verrez que la préoccupation de notre frère se retrouve dans cette composante-là. Vous avez, par exemple, appui à la production, à l'approvisionnement et à la distribution des semences, matériel végétal, certifié et autres intrants. Ça, c'est toute une, disons, tout un sous-programme avec composantes. La promotion à la création animale et de la motorisation. Appui à la mobilisation et à la gestion durable des ressources en eau pour l'agriculture. Donc vous avez, tous les aspects ont été pris en compte, de manière à ce que, lorsqu'on va arriver à créer des pôles de croissance, si nous sommes dans une province comme le Nord Kivu, vous verrez que c'est en fonction de son climat et de son écologie que l'agriculture va se focaliser. Quand vous allez dans une province comme le Bas-Congo, justement c'est en fonction de ses spécificités sur le plan climatique et écologique qu'on aura à travailler. Donc, tout ça a été pris en compte et qu'il n'ait aucune inquiétude, étant donné que je suppose que c'est un acteur aussi important dans le domaine du développement, là où il est dans son coin, il sera obligé de s'impliquer pour que, si on parle de sept grands acteurs impliqués dans le PENIA, mais des acteurs d'exécution, on ne le voit pas au niveau du sommet, c'est au niveau de la base. Donc, toute la base devra s'impliquer où qu'elle se trouve pour que nous arrivions justement à une croissance de production assez remarquable entre 2013 et 2020. En ce moment-là, nous aurons sûrement par rapport aux producteurs agricoles l'organisation de différentes filières, filière manioc, filière maïs, etc., pour que le pays rentre justement, comme nous le disons, dans la grande économie, dans la grande production, pour que le marché international et même sous-régional, puisse revoir la RDC comme un grand pays producteur agricole.
Ingénieur Biza, Ignace Rico, vous êtes les coordonnateurs de la Confédération Paysanne du Congo, COPACO. Merci d'avoir été de nôtre et surtout d'avoir contribué dans cette émission au travers des préoccupations des uns et des autres. Vous avez pu nous orienter. Merci et à très bientôt.
À très bientôt, merci.
Allô? Allô? Mais il ne répond pas?
Voilà, nous disons merci à vous tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à William Lungamba qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Nadine Foula l'ont réalisé. Jir Lungembo vous l'a présenté et coordonné sous la supervision de Nicole Gaka. On prend rendez-vous avec vous demain pour un autre numéro. Mais d'ici là, réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. A très bientôt. Présent, mesdames et messieurs, je vous convie à suivre la conférence hebdomadaire des Nations Unies animée par Carlos Araújo, porte-parole AI de la MONUSCO.